Est-ce que je peux faire un rapport avec le roman stendhalien? Stendhal décrivait son époque.
Oui, parce alors, même problème avec Stendhal, voilà, la Sanseverina, encore une femme, et puis Mathilde, etc. Stendhal, oui, il a apporté, évidemment, il a apporté une chose considérable au roman, c'est le voyage, c'est-à-dire que si vous suivez l'évolution de Stendhal, finalement, qui va mourir italien, comme on sait, c'est cette espèce de conversion fondamentale qu'il y a de la part d'un Français très nourri des idéaux de la Révolution française, et qui se découvre de plus en plus italien. Et donc, le roman de Stendhal, c'est l'apparition des italiennes dans le romanesque. Hein. C'est un surgissement considérable, et c'est là où Stendhal a inventé. Donc, dans mon livre, il y a des portraits de femmes, mais qui ne sont pas seulement... Il y a deux ou trois françaises, mais il y a une chinoise, par exemple, il y a une espagnole anarchiste, il y a une anglaise et une américaine. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire circuler aussi des portraits de femmes à travers les frontières, parce que c'est différent selon qu'on change de contexte. De civilisation. Si le narrateur est à New York, il a des aventures bien spéciales à New York, et s'il est à Paris ou à Rome, il a d'autres aventures, mais en même temps, il y a une sorte de continuité dans tout ça. Il faut imaginer Stendhal aujourd'hui pendant l'avion, si vous voulez, et se déplaçant plus rapidement et voyageant aussi bien à New York, en Amérique, qu'en Espagne, etc. C'est-à-dire avec un voyage presque incessant. Un romancier aujourd'hui est quelqu'un qui peut se déplacer beaucoup s'il veut.
Ma référence à Stendhal était plutôt
dans le ton,
pour signaler que Stendhal décrivait son actualité. Parce que vous aussi, vous décrivez en fait, le narrateur, disons, décrit sa vie.
Il décrit sa vie, il décrit ce qui est en train de se passer au moment où il écrit son roman, et ça rentre dans la trame du livre. Mais ça, encore une fois, je crois que c'est une technique romanesque de tous les temps, c'est-à-dire que ça s'est beaucoup fait, surtout dans le roman américain, par exemple, Dos Passos, si vous prenez Manhattan Transfer, etc., vous avez l'intervention de la vie publicitaire, par exemple, américaine, dans le roman, mais je crois que Balzac a fait ça aussi, il écrivait les choses qui arrivaient absolument de son temps. Ce sont les rapports de force de la société de son temps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire la société dans laquelle nous sommes maintenant. Ce que je reproche souvent aux romanciers, c'est d'inventer des histoires rétroactives ou utopiques dans laquelle on ne voit pas les rapports de force et les personnages de notre temps. C'est-à-dire vous, moi, ce qui est en train de se passer dans la radio, dans la télévision, dans les journaux, dans la politique aussi, et les questions d'argent, de rapports de force, la façon dont la sexualité sert aussi à des rapports de force très déterminés. Que les femmes connaissent bien d'ailleurs, et dont souvent elles se plaignent. Et là, donc, je crois qu'on est dans une transformation de la société. Et souvent, les romanciers, à mon avis, ne font pas leur travail aujourd'hui parce que c'est une époque très dure, hein, extrêmement énervante et accablante, où tout le monde est un peu pressé, fatigué. Je crois qu'il faut s'obstiner à décrire les rapports sociaux, oui.
Enfin, on a fait des thèses aussi sur le personnage romanesque, sur le personnage dans le roman. Il me semble que les grands auteurs que vous venez de citer du 19e siècle construisaient des personnages, sans doute en les copiant, en prenant la matière dans la réalité. Mais vous, il semble que vous masquiez, en fait, des personnages du réel, de votre environnement. Simplement, vous leur mettez un masque qui est... Un masque quelquefois assez transparent, n'est-ce pas ?
Bien sûr, oui. Ça c'est la fameuse question des clés. Oui. Le roman à clé est une tradition aussi, c'est une tradition du 18e siècle, que j'aime beaucoup, et je crois qu'en effet, ça permet de dire beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Enfin, il faut transposer, il faut donc changer les noms et changer un petit peu les apparences sociales, mais ça vient tout simplement du fait que lorsqu'on a l'imagination un peu romanesque, on passe son temps à prendre des notes sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, et sur les autres. Les gens qui fréquentent un écrivain ne se doutent pas parfois que c'est un redoutable vampire bien décidé à se servir du moindre détail. Et donc, ça, c'est la matière romanesque elle-même.
Oui, et cela crée un foisonnement tout à fait extraordinaire parce que, passons de l'idée de personnage à l'idée d'intrigue, n'est-ce pas ? L'intrigue, là, c'est simplement la vie du romancier.
Oui, mais ça, je crois... Alors ça, c'est un trait de moderne, du XXe siècle. C'est que... il n'y a plus tellement de milieu social, n'est-ce pas, étanche. Bon, Proust, par exemple, pouvait prendre une société un peu fermée, avec des rituels mondains très, très précis, encore un peu épargnés par le bruit et la fureur, comme dirait Faulkner, du monde extérieur. Je crois que maintenant, il n'y a plus de micro-société privilégiée. Il y en a une, quand même, que je décris, parce que ça, j'y tenais beaucoup, ce sont les intellectuels, par exemple, qui sont l'équivalent de ces sociétés mondaines de la fin du 19e siècle, qui sont un milieu assez fermé sur lui-même, et où se déchaînent des passions sous-jacentes qu'on ignore souvent. On dit toujours l'intelligentsia, les intellectuels, avec un peu de dérision, mais ils sont soumis aux mêmes passions que les autres humains, et parfois des passions terribles. Donc là, c'est un milieu que je connais bien, et que je me suis attaché à décrire dans ces coulisses, où se passent parfois des choses, des crimes, enfin, comme par exemple un philosophe célèbre qui n'a pas hésité à tuer sa femme, et ça m'a intéressé de décrire ce rapport des intellectuels aux femmes, des philosophes aux femmes, et parfois de certains écrivains très importants comme Sartre ou Aragon, et qui ont là-dessus des positions historiques très intéressantes. Il y a cette affaire des couples célèbres, n'est-ce pas, par exemple, Sartre, Beauvoir ou Aragon, Elsa Triolet, et j'essaye d'analyser pourquoi cette mythologie féminine a été transmise, élaborée par ces intellectuels-là, une mythologie qui me paraît à bien des égards extraordinairement critiquable.